Ok, donc Firefox OS. Si mes slides marchent, c'est mieux. Ok. Donc, petite présentation de moi-même. Donc, je suis étudiant en master MIAJ à Toulouse. Et je contribue à Mozilla depuis à peu près 3 ans. J'ai eu la chance de faire un stage chez eux cet été, dans l'équipe qui coordonne les équipes bénévoles de traducteurs. Et je suis du coup traducteur bénévole de Firefox et de Firefox OS et des autres logiciels en français. Et donc Mozilla, ça me passionne depuis 3 ans. Je pense que la photo parle d'elle-même. Et je pense que mes collègues de promo diront pas le contraire par mon comportement dans la vie de tous les jours. Donc je voulais expliquer ce que c'était le projet Firefox OS pour ceux qui ne le connaîtraient pas. D'ailleurs, petit sondage, qui possède ou a déjà essayé un téléphone Firefox OS? Donc quand même quelques personnes. Plutôt sympa pour un système qui vient de sortir. Donc du coup, Firefox OS, bon, ça c'est le slogan marketing. Pour ceux qui n'ont pas essayé et qui savent pas vraiment ce que c'est, donc c'est un système d'exploitation mobile qui se positionne en concurrent d'Android ou d'iOS ou des autres systèmes d'exploitation. Il est fait avec seulement des technologies web pour tout ce qui est interface utilisateur. Donc ça va vous parler, il y a un noyau Linux à la base, qui est le même que celui qui est utilisé pour Android. Par-dessus, il y a le moteur de rendu de Firefox qui sert à afficher les pages web, Gecko. Et une fois que le noyau Linux a chargé Gecko, il charge juste des pages web, c'est l'interface utilisateur. Donc tout ce qui s'affiche, donc l'image le montre un peu. Derrière l'interface, c'est vraiment juste des balises HTML, du CSS et du JavaScript. Donc autant les applications système que les applications qui vont être développées sur le marketplace, ce sera des applications web. Donc Firefox OS, si vous avez suivi l'actualité, il est sorti en France. Ça fait 2 ans qu'il était en développement. Et on a pu enfin l'avoir en France pour le grand public, parce que vu que c'est un projet libre, il a toujours été plus ou moins disponible, déjà les sources, et on pouvait l'installer déjà sur ses téléphones. Mais là, il est vendu dans le commerce. Donc il y a un partenariat entre ZTE qui fait le téléphone pour la France et Leclerc qui vend le téléphone. Donc en ce moment, il est de base, il est à 80 euros, il y a 20 euros de réduction, donc ça fait un smartphone à 60 euros sous Firefox OS. Donc il y a aussi d'autres partenaires qui ont suivi Mozilla dans l'aventure. Tous ces sites le vendent sur leur site web. Donc il est achetable autant chez Leclerc en physique que chez tous les autres partenaires. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir autant de partenaires pour un nouveau système. Donc le projet, il s'adresse à qui? Parce que il y a beaucoup de personnes qui peuvent penser que comme c'est centré sur la protection de la vie privée, ça s'adresse surtout aux libristes ou aux geeks. Pas forcément en fait. La cible principale, c'est plus les personnes qui avaient un vieux Nokia à clapet ou des choses d'un autre temps en smartphone et qui veulent leur premier smartphone en fait, le vrai premier smartphone qui est fluide, qui a les applications de base qu'un smartphone a aujourd'hui, qui est pas cher, parce que du coup, vu que Firefox OS est plus léger, techniquement que les autres systèmes, on peut avoir un matériel plus bas pour avoir la même fluidité. Donc ça permet de tirer les prix vers le bas. Et il a été pensé, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits là-dessus pour que l'interface, le système lui-même, soit simple d'utilisation, avec des grosses icônes, avec des couleurs, pas trop de sous-menus par rapport à Android, par exemple, où il y a beaucoup de sous-menus, on peut se perdre facilement, il y a des options cachées un peu partout. Là, ça a été vraiment pensé pour que tout soit accessible, pas forcément du premier coup, mais qu'il y ait vraiment un effort là-dessus pour réduire la complexité de l'interface. Donc pourquoi Firefox OS? Oui, ça rappelle sûrement des souvenirs à certains d'entre vous. Moi, j'étais un petit peu trop jeune à cette époque-là. Mais ça fait partie de l'histoire du web. Donc tous les sites web à l'époque étaient souvent... ça marche avec Internet Explorer, développé exprès pour Internet Explorer. Et du coup, il y avait un monopole. Et il y avait un monopole et personne croyait en Firefox pour venir briser ce monopole et relancer l'innovation. À l'époque, vraiment, personne pensait sur le petit navigateur qui sortait presque d'un garage en Californie et qui a été ensuite développé par toute la communauté qui a rejoint le projet. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil. Il y a un monopole par Android et iOS, et personne ne croit vraiment en Firefox OS. Donc, l'avenir nous le dira, mais le but, c'est vraiment de combattre les silos. Donc, par exemple, sur Android, tout est fait pour que l'utilisateur ne puisse pas partir. Si on télécharge une application, les données vont rester chez Google ou chez l'éditeur de l'application. Si on paye l'application, on ne pourra pas l'utiliser sur un autre système, par exemple. Alors qu'avec une application web, par exemple, si on achète l'application sur le Firefox Marketplace, on peut l'utiliser après sur d'autres systèmes sans souci. Parce que c'est pas, Mozilla ne souhaite pas qu'on développe des applications pour Firefox OS, mais qu'on développe des applications pour le web, pour que ça devienne la plateforme de référence sur le mobile. Aujourd'hui, c'est la plateforme de référence sur le desktop, mais Mozilla veut que ce soit la plateforme de référence sur le mobile, et pas que ce soit quelque chose de spécifique comme c'est le cas en ce moment. Y a tous les jours, enfin, il y a plein de plateformes qui se créent. Microsoft lance sa plateforme, donc il faut redévelopper une application pour Microsoft. Et ça, c'est pas quelque chose qui succédera s'il faut à chaque fois développer les applications et tout refaire pour chaque plateforme. Donc, qu'est-ce qui est fait pour que l'utilisateur soit plus libre avec son système? Donc, des choses toutes simples. Sur Android, quand on installe une application, on doit donner aveuglément l'autorisation de toutes les permissions que l'application demande. Mozilla pensait que ce n'était pas une bonne idée. Donc du coup, dès qu'on installe une application, elle ne demande aucune permission. Mais au cas par cas, à l'utilisation, si elle a besoin d'accéder à telle ressource du téléphone, elle demandera l'autorisation à l'utilisateur, qui acceptera ou pas, et qui pourra aussi se souvenir de son choix si jamais c'est une permission qu'il veut donner à chaque fois. Maintenant, concernant les nouvelles versions du système, c'est un point qui revient souvent en ce moment. Donc, je voulais donner un petit aperçu de qu'est-ce qui se passait derrière. Donc, déjà au niveau de la concurrence, vous avez sûrement suivi la mise à jour catastrophique d'iOS 8.0.1. Donc, ça, pour rappel. Ils ont sorti leur nouvelle machine il y a quelques semaines. Ils ont sorti une mise à jour juste après et leur téléphone ne pouvait plus téléphoner, ce qui est embêtant. Donc du coup, vraiment tout le monde peut se planter et sur une machine qui coûte 1000 balles, ça fait un peu plus mal aux fesses que sur une machine à 60 euros. Mais du coup, même sur une machine à 60 euros, il y a quand même un niveau d'exigence à assurer. et ça prend du temps. Et je vais essayer de détailler vite fait qu'est-ce que ça implique de sortir une version d'un système d'exploitation. Donc des naissances compliquées. Donc peut-être que vous pensez que j'exagère en disant ça, mais je vais prendre l'exemple de la dernière version stable. Donc le développement a été terminé le 17 mars et il a fallu 4 mois pour qu'elle soit commercialisée chez Leclerc. Donc dans ces 4 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Mozilla qui fournit le système, qui développe toutes les fonctionnalités. Une fois qu'elle a terminé, il y a plein d'autres partenaires. C'est vraiment différent de Firefox Desktop, en fait. Firefox Desktop, si on caricature, Mozilla fait sa version, ils appuient sur un gros bouton rouge, boum, 500 millions de personnes ont la nouvelle version. Là, ça marche vraiment pas pareil. Il y a Mozilla qui fait le système. Il y a les constructeurs comme Qualcomm qui doivent faire des tests et des certifications sur le système pour certifier que c'est conforme à leur matériel. Il y a les constructeurs comme ZTE qui doivent faire des tests sur leur version après pour vérifier que ça s'applique bien, que tout marche sur leur appareil. Et il y a les opérateurs qui doivent aussi faire des tests et ajouter leurs applications quand ils en ont et quand il y a un partenariat avec un opérateur, ce qui n'est pas encore le cas en France. Mais pourtant, il y a tout le reste et du coup, ça prend du temps. Donc ZTE en France. Donc il y a eu du mieux. Il y a quelques mois, ils avaient sorti un premier téléphone, le ZTE Open. Qui n'était pas sorti en France, mais il l'avait mis sur eBay. C'était en gros un premier test pour que tout se mette en place. Au niveau des sorties de version, c'était un petit peu catastrophique. Il a fallu qu'ils s'y reprennent à plusieurs fois pour avoir un truc qui marche. Ensuite, ils ne mettaient pas à jour. Enfin, c'était un petit peu la galère. Mais là, du coup, ça va mieux. Maintenant que c'est sorti en France, Mozilla France pousse ZTE à faire des correctifs. Sur celui qui est sorti, par exemple, il y avait un bug sur quand on avait un appel. Des fois, ça rebootait le téléphone, c'était embêtant. Donc, du coup, ça a été corrigé par ZTE. Il y a des mises à jour qui sont faites. Là, ils sont en train. Alors, je ne vais pas parler à leur place parce que je vais pas prendre des décisions à leur place. Mais ils sont en train de travailler sur la version 2 de Firefox OS. Ils ne peuvent toujours pas la mettre à jour puisque Mozilla n'a pas encore terminé la version 2. Le code est terminé, mais les certifications ne sont pas encore faites. Ça doit arriver d'ici quelques jours, normalement. Ensuite, ils auront leur phase de test et là, ils pourront la pousser après sur le canal. Donc ça devrait arriver normalement, on espère. Donc il y a eu des problèmes. C'est un système jeune, donc c'est normal qu'il y ait des problèmes. Mais du coup, on s'adapte. Mozilla s'adapte, la communauté s'adapte, ZTE s'adapte. Donc du coup, au niveau de Mozilla, ils ont changé le cycle de développement de Firefox OS. Firefox Desktop, pour référence, il faut 6 semaines, chaque 6 semaines, il y a une nouvelle version. Firefox OS, jusqu'à maintenant, chaque 12 semaines, il y avait une nouvelle version. Et maintenant, ça va passer à 24 semaines pour refléter la réalité, en fait, tout simplement. En 2014, Mozilla a sorti, alors je vais pas dire de bêtises, mais au moins 3 ou 4 versions de Firefox OS, du coup. Et en vrai, les constructeurs ne les prennent pas toutes, parce que les temps que j'ai cités précédemment de certification, ça prend énormément de temps. Il y a du retard aussi, il y a des imprévus. Du coup, ils ont décidé de prendre plus de temps pour le développement et de repousser un peu ça, en espérant que les partenaires puissent suivre derrière et proposer ça rapidement aux utilisateurs. Et ça simplifiera la vie de pas mal de personnes. y compris les traducteurs, parce que c'était un petit peu la galère pour traduire rapidement le truc et que les partenaires prennent les traductions. Et des fois, ils ne faisaient pas ça correctement et ça ralentissait un peu tout. Voilà. Donc, la communauté aussi s'adapte. Parce que vu que ZTE est un peu lent, ils se sont dit, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas nos propres compilations pour le ZTE OpenC? Donc du coup, il y a des gens dans la communauté qui ont travaillé là-dessus, et ils ont fait ça vraiment bien. Donc c'est pas juste, on prend le code source, on compile, ça marche. Ils ont vraiment fait des compilations avec toutes les langues. J'ai validé cette partie étant traducteur, avec tous les claviers, avec un serveur de mise à jour derrière. Donc en gros, comme pour ceux qui connaissent comme ça marche pour Geekphone, il y aura un site qui est en cours de développement et qui proposera les différentes versions de Firefox OS, la dernière stable, la prochaine stable, la 2.0, la 2.1, la 2.2. Et donc, pour installer ça, c'est simple en fait. ZTE a fourni un outil pour router le téléphone, parce qu'ils ne sont pas routés de base. Le seul truc, c'est que pour le moment, l'outil marche que sous Windows. Oui, enfin, tout ne pouvait pas être bien. Hein, mais on réfléchit dans la communauté à essayer de trouver une solution pour que ça marche sous Linux aussi. Parce que ce serait pas mal. Mais il suffit de router le téléphone une fois, ensuite on met un petit point zip sur la carte SD et on reboot et ça met le nouveau système. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça devrait arriver incessamment sous peu. J'ai pas mis le lien parce qu'ils sont encore en train de bosser dessus, donc c'est pas vraiment prêt. Mais ça marche pas mal. Donc la 2.0 par exemple, elle sera compilée tous les mois, la 2.1 toutes les semaines, et puis la 2.2 peut-être tous les jours, quelque chose comme ça. Enfin, et le truc, c'est que si jamais il y a des problèmes sur la build commerciale, ça peut permettre de pousser des patchs directement sur ces builds-là par les développeurs de Mozilla, vu que déjà pour ce qui est l'interface, la plupart des développeurs sont au bureau de Paris. Donc ça aidera à pousser les patchs directement sur les versions de la communauté francophone. Et on pourra proposer ça plus rapidement et limite faire une sorte de bêta test pour après que ZTE mette ça sur les vraies versions. Alors, les prochaines évolutions de Firefox OS. Donc j'ai mis un gros logo bêta parce que les gens ils voient souvent des screenshots, ils disent ah ça va arriver, c'est bon, ça va arriver dans deux semaines. Pas vraiment. Contrairement à Apple par exemple qui en général ils communiquent pas trop sur les évolutions ou alors assez tard dans le cycle de développement. Là, c'est des choses qui sont vraiment très tôt dans le cycle de développement. Et c'est genre pas des conneries, genre c'est développé, le lendemain, tout le monde le voit. Chez Apple, il faut peut-être attendre 6 mois avant qu'ils se décident à communiquer. Enfin, je dis Apple, les autres aussi, c'est pareil. Donc voilà, gros warning bêta. Donc, la première grosse nouveauté, c'est le navigateur intégré au système. Donc tout ce que je vais présenter, ça va être entre la 2.0, 2.1, 2.2, 2.3. C'est pas encore fixé. Donc jusque-là, il y avait une application Firefox, bien sûr, sur Firefox OS. Et là, maintenant, si vous voyez le petit logo recherché sur le web, c'est présent sur toutes les applications du système en permanence. Du coup, on peut lancer sa recherche. Ça recherche Internet depuis n'importe quelle partie du système. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique. Et donc du coup, bon, ils ont refait aussi toute l'interface. Hein. c'est plus joli maintenant. L'écran d'accueil vertical, jusque-là, c'était horizontal comme Android, en fait. Là, du coup, ils ont fait un écran vertical. Moi, je trouve ça bien. Après, c'est au bout de chacun. On peut faire aussi des groupes d'icônes. Bien sûr, on peut réorganiser les icônes à votre convenance, tout ça, tout ça. La navigation privée. Alors, quand je dis qu'on voit les changements rapidement, ça a été ajouté il y a 2 jours. Donc du coup, j'ai même pas eu le temps de le traduire. C'est vraiment neuf, c'est les plâtres, hein, on essuie les plâtres. Autre chose qui sera dans la version 2, la navigation latérale, donc avec un geste depuis le bord de l'écran, on peut naviguer sur toutes les applications qui sont ouvertes facilement. C'est assez pratique, ça demande un peu d'adaptation au début pour y penser, mais c'est plutôt bien fichu. Un gestionnaire de téléchargement, parce que bêtement, il n'y en avait pas. Donc du coup, c'est pas la grosse innovation, mais c'est toujours bienvenu. Un centre de notification qui a été refait un peu. Un nouveau design. Les widgets s'affichent dedans. C'est du cosmétique, mais ça fait toujours plaisir. Bon, après, il y a plein d'autres choses. Hein. Je peux même pas tout citer, toutes les nouveautés. Il y a vraiment plein de nouvelles fonctionnalités. Des services aussi. Localiser mon appareil. Vous pouvez, si vous l'activez, il faut un compte, créer un compte chez Mozilla, mais c'est pas obligatoire non plus. Et vous pouvez localiser l'appareil s'il est perdu, le faire sonner s'il est égaré dans son salon, pour le retrouver, ou s'il est volé, effacer les données à distance. Là aussi, c'est encore quelque chose qui existe déjà, mais c'est toujours bon à prendre. Les thèmes aussi, donc pour le moment, ce sera quelque chose qui va être uniquement pouvoir être fait par les partenaires, pour des raisons de sécurité pour l'instant. Mais dans les prochaines versions, ce sera accessible, tout le monde pourra proposer son thème pour Firefox OS, donc thème du système global. En gros, ça consistera juste à prendre les fichiers CSS, à modifier tout bêtement, vu que c'est du web. Fait ça assez facilement. Donc, il y a trois petits points parce qu'il y a tellement de choses, plein de petites touches partout sur le système. Donc, à plus long terme, intégration plus poussée du navigateur. Il va y avoir d'autres nouveautés parce que jusque-là, vu qu'ils avaient prévu de l'intégrer déjà dans le système, il n'y avait pas trop de choses qui étaient ajoutées au niveau navigateur. Maintenant qu'il a commencé à être intégré dans le système, on va pouvoir avoir de nouvelles choses à ce propos. Il y a aussi ce qui est prévu de découpler les applications système de l'OS, donc de pouvoir mettre à jour séparément l'application appareil photo, par exemple, et les autres applications, et mettre à jour Gecko aussi. Parce que, mine de rien, du coup, si Firefox OS date un peu, Gecko date un peu. Et donc, c'est comme si on naviguait sur ordinateur avec un vieux Firefox. Et du coup, ça pose un petit peu des problèmes de compatibilité web. Donc, du coup, on réfléchit à ça aussi. Et les paquets linguistiques, ça me concerne directement, du coup. Actuellement, si on traduit le système, et la traduction est incluse dans le code, donc du coup, si on peut plus modifier une fois que c'est sorti, quoi. Là, ça permettrait enfin, on doit respecter le cycle de développement du code. Là, ça permettrait de traduire jusqu'au dernier moment et que l'utilisateur choisisse son pack de langue, l'installe directement. Et ça permettrait de proposer a posteriori, du coup, d'autres langues. Là, on vient d'ajouter le breton. Ça permettrait aux Bretons d'ajouter le breton sur leur système, même s'il n'était pas disponible à la base. Et ça permettrait aussi de ne pas avoir à négocier les langues avec les partenaires qu'ils incluent ce qu'il faudrait. Donc actuellement, à plus grande échelle, en 2014, Firefox OS a évolué assez rapidement. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités. Ça a rattrapé les fonctionnalités manquantes qu'il y avait sur le système. Et Mozilla commence à différencier le système par rapport aux autres. Donc ça passe par l'écran vertical, l'intégration du navigateur. Et du coup, il y aura d'autres choses spécifiques qui arriveront par la suite. Et sûrement en 2015, un début de montée en gamme avec des appareils un peu plus robustes. Donc ça, ce sera le futur en 2015. Un petit point sur les langues, parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. On est bon dedans là ? Ouais. Donc actuellement, il y a 74 langues qui sont en cours de traduction. C'est quasiment autant que pour la version desktop de Firefox. On en est à 88 langues qui sont en release officielle. Il y a 42 langues qui sont complètes aujourd'hui. Donc c'est 42 langues qui peuvent être installées par tout partenaire dans le monde, dont 25 ont été validées et certifiées par l'équipe d'assurance qualité de Mozilla. Donc ça veut dire que pour les langues qui sont complètes mais pas validées, en gros, ça, ils prennent le risque de l'installer s'ils le veulent. Mais elles sont complètes. Alors voilà, l'actualité, c'est les 10 ans de Firefox aussi. Donc ça n'a pas trop de lien avec Firefox OS, mais ils sont quand même assez liés. Donc je vais faire une petite partie sur les 10 ans de Firefox. Donc c'était lundi, Mozilla a sorti la version 33.1. C'était la surprise de l'anniversaire, avec dedans plein de petites choses. Ça a mobilisé quelques équipes pendant quelques semaines. Donc d'abord, le bouton effacer, ça permet simplement... C'est pas une nouvelle fonctionnalité, mais ça permet pour l'utilisateur lambda d'accéder plus facilement pour effacer son historique, fermer ses fenêtres et tout ça. DuckDuckGo a été ajouté à Firefox. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pas le navigateur par défaut, ça reste Google. Mais il est disponible sur toutes les versions de Firefox maintenant. Mozilla a aussi annoncé des partenariats qui viendront après parce que c'est pas la bonne diapo. Donc Mozilla a aussi annoncé une version de Firefox spéciale pour les développeurs, donc Firefox Developer Edition. Est-ce que j'ai des détails ? Ouais. Donc qu'est-ce que ça permet par rapport à la version actuelle ? Alors en plus, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Mais c'est plus la volonté de Mozilla de faire une version pour les devs et au fur et à mesure d'ajouter des nouveautés spécifiques au développement, aux développeurs. Donc tout bêtement, déboguer une application sur plusieurs plateformes. Là, il y a une extension qui permet de déboguer une page web sur un Chrome sur Android à partir de Firefox. Ou sur une page web sur iOS. Et bon, ils ont mis un petit thème sympa pour les développeurs et d'autres joyeusetés. Mais voilà, ils ont annoncé aussi un partenariat avec Tor. Donc Mozilla va sûrement héberger des nœuds de réseau Tor sur ses serveurs. Et ils vont travailler ensemble. Visiblement l'intégration de Tor dans Firefox par défaut. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la vie privée. Il y a une autre, alors ça c'est pas encore sorti, mais ça a été annoncé lundi aussi. C'est une protection contre le pistage, plus que le. Alors, ça, c'était Do Not Track. Et maintenant, ça, au lieu de juste prévenir les sites, ça fait un peu comme ce que fait Ghostory, ça bloque carrément les morceaux de page qui pistent l'utilisateur. On peut désactiver bien sûr la protection au cas par cas, site par site. Mais ça aussi, ça, c'est dans l'optique de protéger un peu plus efficacement la vie privée de l'utilisateur. Et d'autres choses, alors Firefox 64 bits sous Windows, ça a été annoncé, là, ils ont repris le travail dessus. Ça devrait sortir sûrement en 2015, mais on n'a pas la date précise. Et ITNS, alors Electrolysis, c'est le multiprocessus par onglet dans Firefox. Donc concrètement, si une page web plante, au lieu de planter tout le navigateur, bah, ça plante l'onglet. Donc c'est une petite amélioration aussi qui a pris 4 ans. Mais ça va arriver. Alors on revient du coup à Firefox OS. Et comment contribuer? Donc alors je vais passer un petit peu de temps là-dessus. Tester les versions expérimentales. C'est vachement important parce que comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, contrairement aux autres concurrents, on a accès aux versions vraiment expérimentales. Vraiment le lendemain que ça a été codé, et du coup, tester ça, ça a un vrai impact. Si on signale le problème aux développeurs le lendemain qu'ils viennent de coder le truc, du coup, ça peut être réglé hyper rapidement et ça évite de surcharger les problèmes et de corriger ça le plus rapidement possible et de retarder au final la sortie de l'OS. Tester, c'est pas compliqué, hein, il suffit de l'utiliser si vous avez un téléphone Firefox OS. Tout le monde n'en a pas, mais pour ceux qui en ont un, que ce soit l'OpenC avec les versions de développement qui vont être proposées ou le Flame avec les versions de développement qui sont disponibles. Versions de développement qui sont disponibles sur MDN Flame, sur la page Flame de MDN. Vous pouvez télécharger les versions Gecko et Gaia, donc l'interface de Firefox OS, qui est mise à jour en Wi-Fi tous les jours pour avoir les tout derniers changements à chaque fois. Pas besoin de flasher des trucs et de perdre ses données. Du coup, ça a un risque, ça peut péter à tout moment. Hein, faut pas. Si on utilise une nightly, faut être conscient de ça. Moi, j'utilise ça quotidiennement. Ça va faire un an, quelque chose comme ça. Au début, ouais, c'était assez chaotique, mais du coup, maintenant, ça devient un peu plus stable. Ça devient utilisable. Donc du coup, ouais, gros impact. En testant tout bêtement, il m'arrivait de trouver, j'ai dû trouver, je sais pas, une dizaine de bugs qui ont bloqué la sortie de Firefox OS. Donc c'est assez gratifiant de trouver un problème et de que ce soit vraiment utile. Et c'est pas, il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou. Des fois, c'est vraiment des choses bêtes que personne n'avait vu parce que personne n'avait ce cas d'utilisation. Et du coup, alors après, faut apprendre à utiliser Bugzilla. Si vous ne l'utilisez pas, c'est pas hyper compliqué. Globalement, il suffit de mettre une description du problème. Alors le mieux, c'est de mettre la version de l'OS. Attacher une capture d'écran, c'est toujours un plus. Mais vous ne mettez pas la pression là-dessus, s'il n'y a pas les détails, de toute façon, des gens vont le demander. Si ce n'est pas au bon endroit, des gens vont le déplacer. Ça, c'est pas un souci. Mais c'est vachement utile et même si les bugs ont déjà été signalés, c'est vraiment pas grave. Vaut mieux en ouvrir plus que pas assez. Tout bêtement, bah, pour aider Firefox OS, bah, développer Firefox OS. Et là aussi, si vous êtes un développeur expert, bien sûr, vous pourrez aider plus en profondeur sur le système. Mais même à un niveau assez léger, je ne suis pas une bête en JavaScript, mais j'ai réussi à faire quelques patchs, quelques dizaines de patchs sur Firefox OS. Et ce n'est pas des patchs à 1000 lignes de code, même des patchs d'une ligne, c'est utile, suivant l'endroit où c'est et le temps où c'est fait. Corriger une ligne de code hyper tôt dans le cycle, ça aide vachement, même si c'est qu'une ligne de code. Donc il y a ce site qui est plutôt bien fait, qui permet, alors bon, du coup, c'est pas que pour Firefox OS, mais ça liste tous les bugs qui sont étiquetés un bon bug pour commencer, quoi. En gros, le bon premier bug, si vous n'êtes pas habitué. Il y a en général les gens, les développeurs vous aideront à faire le patch, à appréhender tout le processus pour envoyer un patch sur Firefox OS. Une relecture qui est nécessaire, des choses comme ça. Mais c'est plutôt bien fait, donc n'hésitez pas si des petites choses bêtes, ça prend pas forcément énormément de temps et ça aide beaucoup. Si vous êtes plus dans le développement web, bon là c'était aussi du développement web, mais faire des sites web, on a lancé récemment un petit site pour le lancement en France de Firefox OS. Toute aide est bienvenue pour améliorer ces sites. On est en train de faire le site pour les compilations de la communauté. Toute aide est bienvenue là aussi. Il y a plusieurs projets en cours, même pour aider, pour faire les builds d'ailleurs. Il y a pas de souci. J'ai mis aussi l'adresse du. Alors Bedrock, c'est le site mozilla.org. Et du coup, on peut aussi contribuer à ce site, bien sûr, comme tous les autres sites Mozilla. Donc là, c'est plus si vous êtes sur du Python et du Django. Ou contribuer même en PHP. On a des projets PHP ouverts à tous. Pas de soucis. Alors, développer l'OS, développer les pages web. Ou bah, développer des applications. Encore une fois, pas forcément pour Firefox OS, mais pour le web. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Globalement, c'est un site web avec un fichier manifeste. Après, on peut gérer la mise en cache avec le cache persistant. Encore une fois, c'est un petit fichier avec la liste des ressources à mettre en cache. Et du coup, il y a moyen de faire des trucs plutôt sympas assez rapidement et qui marchent sur toutes les plateformes, quasiment. Et il n'y a pas besoin de redévelopper à chaque fois sur des trucs spécifiques, donc c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à faire des applications, à les mettre sur le marketplace. Il n'y a pas besoin d'ailleurs de les mettre sur le marketplace, hein, on peut les mettre sur son site web, on met un bouton installé, l'utilisateur il clique, ça installe. Aider les utilisateurs. Alors ça fait une bonne dizaine d'années, voire plus, que GeckoZone existe. C'est le forum d'entraide d'utilisateurs francophones. Donc il y a une partie Firefox OS. Si vous avez un téléphone ou vous connaissez le système, vous pouvez aider les utilisateurs. Il y a une partie technique pour les versions de développement, une partie grand public. Donc tout est des bienvenus là aussi. Ça ne demande pas forcément beaucoup de temps, ni de grosses compétences techniques, mais c'est vachement utile. Et ça montre que la communauté est présente derrière le système, et est là pour répondre. Qu'est-ce que j'avais mis après? Ah voilà, la traduction, forcément. Ouais, c'est un peu gros. Traduire et réviser, du coup, alors là, on a aussi pas mal de trucs disponibles. Donc là, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. On traduit alors les sites web, que ce soit mozilla.org ou même les sites de service, les comptes Firefox, localiser mon appareil, Firefox Hello, c'est le client WebRTC qui va arriver dans Firefox 34 et qui va arriver dans Firefox OS aussi bientôt. Les logiciels, donc bah, concrètement Firefox, Thunderbird, SeaMonkey, Firefox OS, Firefox pour Android. Traduire l'aide, donc support.mozilla.org, les articles d'aide aux utilisateurs, il y a besoin d'aide là aussi. Ou traduire la documentation sur MDN pour les développeurs. Même si les développeurs sont censés parler anglais, c'est toujours agréable et confortable pour certains d'avoir la documentation en français. Bien sûr, alors traduire, mais aussi réviser. Donc toute relecture est bienvenue, que ce soit pour les logiciels. J'ai déjà quelques personnes qui relisent les traductions des logiciels. Mais toute relecture supplémentaire est bienvenue. Et sur le reste aussi. Donc, et si on n'aime pas ce qui est technique, alors la traduction c'est pas forcément technique, je l'ai mis quand même dans la partie technique, mais il y a des parties quand même qui sont un peu techniques. Quand on traduit les logiciels, c'est un peu mieux de. Nous on travaille sur Mercurial, on fait des commits à la main, donc du coup c'est mieux d'avoir une petite base technique. Et même pour traduire des termes techniques, quand on les comprend, ça aide. Mais du coup, on peut aussi contribuer, bien sûr, sans connaître un brin de technique. Donc déjà, il y a récemment un groupe de communication qui s'est monté dans la communauté francophone, qui communique en ce moment principalement autour de Firefox OS. Donc c'est eux qui sont derrière le site web que j'ai montré tout à l'heure, firefoxos.mozfr.org, et qui font toute une série d'articles sur Firefox OS pour montrer les applications, expliquer le système aux gens, quoi c'est différent. Donc là aussi, toute aide est bienvenue. Ils travaillent en ce moment en collaboration avec une agence de com que Mozilla a embauché pour parce que la communauté n'avait pas forcément toutes les compétences à la base, donc pour donner un petit coup de pouce pour se lancer. Et à terme, la communauté prendra 100% le relais là-dessus. Donc là aussi, l'aide est bienvenue. Lancer ou assister à des événements. Donc ça encore, un petit exemple. Donc, hier, j'ai discuté avec Dascritch, pour ceux qui le connaissent, Xavier Mouton-Dubosc. Et il a proposé, il a eu une bonne idée, c'était de, au cours du mois prochain, de faire une petite réunion sur Toulouse des utilisateurs de Firefox OS. Par exemple, ceux qui ont le ZTE OpenC, et de les aider à flasher leur téléphone avec les nouvelles builds communautaires qu'on va avoir, ou leur expliquer des petites choses sur le système, et de se rencontrer, d'avoir le retour d'utilisateurs. Donc ça peut être intéressant. Du coup, c'est des petites choses comme ça qui peuvent aider. Bêtement, faire connaître le système. Bouche à oreille, ça marche très bien. On parlait à ses amis. Ça marche super. Qu'est-ce que j'ai mis après ? Rejoindre la communauté francophone. On ne fait pas que de la communication ou de la traduction. Donc il y a plein d'autres domaines. On a une liste de discussions que vous pouvez rejoindre. Il y a, en général, c'est là où on se coordonne. Et où on décide, où il y a toutes les opportunités de contribution qui passent. Donc n'hésitez pas à rejoindre la liste. Ça ne vous engage à rien d'ailleurs. Et sinon, je voulais terminer en signalant que Mozilla embauchait. tout bêtement, contribuer à Mozilla en étant employé par Mozilla, c'est aussi une solution. Et c'est pas forcément inaccessible comme on pourrait le penser. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un stage, si vous recherchez un stage ou un boulot, il y a le site web avec pas mal d'offres en ce moment, les stages viennent d'être lancés. Donc c'est plutôt cool. Mais je pense qu'on va terminer là-dessus. Il reste un petit peu de temps pour les questions, je pense.
Tu comptais dire un mot sur la solution pour tablette ?
La tablette, c'est vraiment en développement. Ouais, la question c'était si je voulais parler de la solution pour tablette. Mozilla a fait 500 modèles qu'ils ont distribués aux contributeurs pour lancer la version sur tablette de Firefox OS. C'est vraiment en cours de développement et on ne sait pas encore quand ce sera lancé, ni où, ni avec qui. Et pour le moment, faut faire le système, quoi. Mais je le sais pas, donc ouais, ça règle la solution, ça règle le problème.
Ok. Ouais, donc salut Théo, j'avais trois questions à te poser. La première, c'est ce que tu sais s'il y a des smartphones un peu plus haut de gamme qui vont sortir sur Firefox OS en France notamment, mais au pire.
Comme a dit Ludo, même si je le savais, j'aurais pas le droit de le dire. Mais ça, ce Mozilla va l'annoncer de façon s'il y a des choses qui vont arriver ultérieurement en France.
Ok. Deuxième question, est-ce qu'on doit probablement pouvoir installer un Firefox OS sur Android, enfin sur des téléphones Android? Est-ce que tu l'as déjà fait ou est-ce que tu as des échos, si ça marche bien ou pas?
Alors pour le moment, c'est vraiment c'est de la bidouille, quoi. C'est sur quelques modèles, ça marche, ça marchote. Sur des modèles vraiment spécifiques avec une version d'Android qui va bien. Donc concrètement, en ce moment, il faut du KitKat. Je l'ai fait sur un Galaxy S2 à l'époque. Le portage est fait par des bénévoles, concrètement. En ce moment, il y a le Nexus 4 qui marche pas trop mal. Le Nexus 5, il y a la caméra qui est pétée. Mais voilà, c'est des trucs... C'est possible sur certains modèles pour bidouiller, ça peut permettre de bidouiller des trucs, mais le mieux c'est quand même d'utiliser les téléphones. Le mieux si on veut faire un truc vraiment qui avoir la même base que les développeurs Mozilla, c'est le Flame. Ça, il n'y a pas de miracle. Mais si on veut bidouiller des trucs, ouais, c'est possible avec la bonne version d'Android et si le portage a été fait.
Dernière question rapide, ils embauchent en France aussi ? Genre télétravail
ouais, chez Mozilla, tu peux travailler en télétravail sans souci. Et sinon, il y a 9 bureaux, je crois, Ludo, dans le monde. Portland, Toronto,
Berlin, Londres, Paris, ouais, 9.
9 bureaux dans le monde, donc soit depuis un bureau.
Et le télétravail, c'est bien, mais de temps en temps, ça fait du bien de voir des collègues. Travailler au bureau.
Ouais, Ludo, tu peux tirer des trucs là-dessus, vu que tu bosses en télétravail. Donc voilà. C'était tout au niveau des questions ou...
T'es configuré pour faire une démo prise de main à distance sur téléphone pour faire avec les outils de dev
c'est
ou pas?
C'est pas mon PC en fait.
D'accord.
Mais ouais, j'aurais pu faire ça, mais j'ai pas voulu prendre trop de risques. Ouais, ça aurait été cool de pouvoir. Ouais, on peut modifier sur son téléphone en live depuis les outils de développement de Firefox sans avoir à rien compiler. C'est assez sympa.
Pour les applications, c'est quoi les langages utilisés en fait?
Tout bêtement, CSS, HTML, JavaScript.
Ok.
Après, il y a d'autres solutions, genre il y en a qui ont porté des moteurs 3D en C++, vers du JS via MScriptM. Ça marche plutôt pas mal, mais Firefox OS, il fait tourner que du CSS, du HTML et du JS. Tout le système est comme ça, et toutes les applications qui sont installées dessus sont comme ça.
Ok, merci.
Personne d'autre ? Ah, là-bas.
Ouais, je sais que c'est pas le but de Firefox OS de le faire. Est-ce que Mozilla compte aider des développeurs à développer pour Firefox OS des applications qui seraient jugées nécessaires de type navigateur GPS, synchronisation de calendrier et de contacts?
Mozilla a un programme d'aide aux développeurs et fournit par exemple de temps en temps des téléphones, tout bêtement. Il y a un programme où ils filent des téléphones aux développeurs pour faire des applications. Concrètement, ils demandent « Hey les gars, qu'est-ce que vous comptez faire pour Firefox OS si on vous donne un téléphone ?» Et si l'idée leur plaît, ils donnent un téléphone gratuit pour développer. Ça, c'est plutôt sympa. Ok, bon, je pense qu'on va pas trop déborder, ça. C'est à peu près l'heure, je pense.
Merci.